BFM Bourse, on refait la séance.
Renaud Ramed, gérant chez Premier Parrain, nous accompagne. Bonsoir Renaud, bienvenue.
Bonsoir Guillaume.
Éric Blaine aussi, directeur de la gestion action de Swiss Life Banque Privée. Bonsoir Éric.
Bonsoir Guillaume,
ravi,
bonsoir
messieurs, ravi messieurs de vous retrouver. Alors effectivement, soit on se console en se disant le CAC 40 a reculé pas plus que les autres marchés européens, moins de 2%, c'est exactement ce qu'a fait l'Eurostoxx 50, on peut s'en consoler. Ou au contraire, se dire la baisse elle est de plus en plus harmonisée, de plus en plus partagée en Europe. En tout cas, aujourd'hui, on voit que l'accélération baissière sur le CAC s'est faite à peu près en même temps qu'une pression sur le 10 ans français. La France reste très très scrutée et on est sur un nouveau plus haut d'écart de taux entre la France et l'Allemagne là depuis 2017, un nouveau plus haut de 7 ans d'écart de taux. On a 68 points d'écart de taux en ce moment entre le 10 ans français et le 10 ans allemand. Et ce CAC qui perd 2%. Bon, comment est-ce que vous regardez ça, gérant action que vous êtes d'ailleurs, depuis la dissolution, est-ce que pour vous le monde a un peu changé sur les marchés ou faut pas s'énerver et on peut se dire que ces baisses d'un certain nombre de valeurs offrent aussi des points d'entrée? Renaud.
Oui. Bon, alors il y a clairement un pricing de marché qui dès lundi a été intermarché, c'est-à-dire ça a touché les actions, les taux.
C'est pas une pub, hein. C'est voilà. Ouais.
Tous les marchés et également le marché des devises, avec somme toute une réaction. Bon, plutôt modéré. Là, on s'inscrit un peu dans la continuité. Certes, ça se diffuse à l'Europe, mais c'est sûr que la pression sur les bancaires, sur les secteurs dits, on va dire, ciblés par le programme envisagé, il y a un effet. Ensuite, il y a l'effet quand même d'hier du discours de Jérôme Powell. On éloigne encore une détente des taux, donc l'acte de la BCE se retrouve un peu plus isolé, même si ça n'empêche pas les valeurs tech, mais spécifiquement US de monter. Et puis tout ça s'inscrit dans un cadre, je vous rappelle, de marché qui était très très haut, alors que tout le monde appelait au sell in May un go away. On avait eu un rallye au mois de mai assez fort, et notamment sur des classes risquées. Donc on va dire que les marchés...
Rallye, le CAC, il était stable au mois de mai.
Oui, mais par exemple, les valeurs moyennes et encore plus, c'est-à-dire les petites valeurs ralliaient fortement, c'est ce qui dénotait une appétence au risque. Donc quand même, les marchés, on sentait que les marchés étaient mûrs pour une justification ou une raison à la baisse. Ouais. On va dire que celle-ci était un peu toute trouée.
Est-ce que, alors, les banques aujourd'hui reculent avec donc cette nouvelle tension sur le 10 ans français particulièrement? Là, il y a quand même une exception française sur le marché obligataire, qu'on constate encore aujourd'hui, 10 ans français se tend, plus que le 10 ans espagnol, plus que le 10 ans italien, et donc on a un 10 ans français au même niveau que le 10 ans italien, là, désormais. Eh oui, on en est là, on était à 3,19 tout à l'heure, vers 17h15 sur le 10 ans français. 3,19, c'est le niveau du 10 ans portugais, voilà. Même niveau entre les taux portugais et français désormais, avec cette tension sur la France. Les banques en souffrent particulièrement. BNP Paribas, ce soir, perd plus de 4%. En tout cas, perdait 4% dans la dernière demi-heure, on a terminé à 3% de repli. Crédit Agricole aussi en repli de plus de 2%. On a aussi Vinci, toujours, peut-être une privatisation, on verra par ailleurs, du secteur audiovisuel public en France, TF1 et M6, du coup, qui reculent nettement ce soir de 3 à 4%. Est-ce que dans cet univers de valeurs qui souffre depuis l'annonce de la dissolution, certaines ou certains secteurs vous semblent désormais offrir des points d'entrée? On est une émission d'investissement pour les investisseurs. Est-ce qu'il y a des points d'entrée là où vous préférez laisser passer le train, Renaud?
Alors, je pense que c'est un petit peu tôt. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des secteurs qui sont spécifiquement ciblés par un programme, type les secteurs régulés, type les autoroutes.
Vinci perd encore 2,5% ce soir.
Voilà, donc là, ça relève un petit peu de la pièce de monnaie qu'on agite. Ensuite, en période de trouble, les secteurs bancaires, elles, pourraient être impactés pas plus durablement, mais c'est-à-dire qu'il y a un effet, il n'y a pas que l'effet programme, bien sûr, mais il y a également l'effet économique, l'effet taux qui pourrait se tendre et qui n'est pas bon ni pour leur bilan, ni pour leur solvabilité, et leur détention d'obligations en bilan. Donc c'est pareil, moi ça me semble encore un peu tôt, même si dans ce pricing de marché, cette valorisation qui est imprimée, c'est probablement qu'il y a un peu une réaction et surtout une anticipation de quelque chose qu'on ne connaît pas, parce que quand même le marché va directement dans une issue possible. Bon, il y en a quand même d'autres, c'est une élection qui est quand même où il y a quand même un...
Mais il y en a plein, mais il n'y en a aucune bonne apparemment.
C'est
une majorité absolue RN, c'est pas bon pour les marchés. S'il y a zéro majorité absolue de personne, il y aura blocage et ce sera pas bon pour la note de la France, parce qu'il faut continuer de réformer le pays, manifestement. Et puis, on voit la gauche aussi très forte dans les sondages, mine de rien, et nos experts du club nous disaient tout à l'heure que ce n'était pas forcément non plus du goût du marché, dans la mesure où il y a LFI, il y a même le nouveau parti anticapitaliste dans cette alliance. Bon, voilà.
Oui, non, alors, c'est un cocktail compliqué. Il y a un pricing de marché sur un programme, et il est difficile de savoir finalement quel sera ce programme. Donc, il y a une vision du marché, mais qui est surtout un peu tôt pour prendre des positions certaines.
La vision suisse. La sérénité d'Éric Blaine avec nous depuis Swiss Life Banque Privée. Rebonsoir donc Éric, merci de nous accompagner aussi. Quel regard portez-vous sur la baisse ce soir du CAC et ces secteurs, les mêmes depuis le début de la semaine, qui signent les plus forts replis?
C'est pas très désolant quand même. Faut bien reconnaître que ce sont les secteurs qui sont visés par un éventuel intervention du Rassemblement national qui est élu et qui derrière peut gouverner. Effectivement, c'est secteur bancaire, secteur des concessions, secteur des médias qui sont touchés. D'un autre côté, c'est pas du tout sûr qu'ils puissent réellement dérouler un programme, et pas encore la majorité. Donc si ce n'était pas le cas, moi, je regarderais Vinci et TF1. Hein. Vinci vient de perdre 7,78% en plus des 3,7% du CAC. TF1 vient de perdre 12% en plus des 3,7% du CAC donc depuis vendredi dernier. S'ils peuvent pas dérouler leur programme, Vinci, franchement, est beaucoup moins exposé aux concessions autoroutières françaises que Eiffage. Eiffage a perdu 8 en plus du CAC 40. Vinci perd 8 aussi. Donc, clairement, il y aurait un rattrapage. Il y aurait un rattrapage sur TF1 qui a perdu 12% si ils ne pouvaient pas dérouler leur programme non plus et que la 2 n'était pas privatisée. Dans ce cas-là, il y aurait un rattrapage fort. Moi, je pense que c'est deux valeurs à regarder dans ce cas-là.
Il faut qu'on parle aussi, alors au-delà de la politique française, et de la politique européenne face à la Chine, avec l'annonce de surtaxes douanières pour les véhicules qui viendraient de Chine, qui seraient fabriqués en Chine et importés en Europe, donc des surtaxes à venir. Et on voit que Rémy Cointreau, ce soir, a énormément souffert, moins 6% en clôture, parce qu'on se dit que la Chine va peut-être annoncer des mesures de représailles, du coup, sur un certain nombre de secteurs face aux annonces européennes, et notamment le secteur, et ils sont déjà très présents là-dessus, le secteur des cognacs et des spiritueux. Ce soir, Rémy Cointreau perd 6%. Comment est-ce que vous regardez la suite sur Rémy Cointreau?
Alors, de manière mitigée, mais pas uniquement sur cette affaire-là. Vous savez, bon, on pense que, vous savez, il y avait le pseudo-annonce quand Xi Jinping était venu en France, de pseudo-rassuré sur le secteur. Oui. On pense que quand même, ça pèse pas forcément lourd dans la défense du secteur s'il y a un revirement. Nous, c'était plutôt sur les derniers commentaires de la société. Certes, c'est pas un bon élément, mais au-delà de ça, ce qui nous fait être plutôt à l'allègement sur ce type de dossier, c'est que néanmoins, la reprise du cognac aux US, hein, qui est le sujet, semble être décalée dans le temps et que ça ne déstocke pas tant que ça. Voilà, au niveau des distributeurs. Voilà, donc si Rémy, il y a un argument de la valorisation, mais je rappelle, la valorisation, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, c'est jamais l'élément déclencheur, donc ça semble être un peu, et puis là, cet élément n'est pas positif.
On interroge là-dessus nos auditeurs sur notre application, notre site aussi, et nos réseaux sociaux, notre fil BFM Bourse, notre fil LinkedIn, notre fil X également. À vos yeux, quelle sera la principale victime, peut-être à venir, en effet boomerang, de la hausse des taxes douanières européennes sur les véhicules fabriqués en Chine? Est-ce que ce seront les acteurs des spiritueux, comme Rémy Cointreau, avec des mesures de représailles peut-être à venir de la Chine, ou est-ce que ce seront les constructeurs automobiles français, allemands? Voilà, vous êtes nombreux à avoir répondu, vous avez voté en grande majorité à plus de 50% pour les acteurs des spiritueux. Est-ce que c'est aussi votre avis, Eric? Est-ce que Rémy Cointreau est le plus exposé là-dedans?
Simplement, hein, Rémy Cointreau, c'est 25% de son chiffre d'affaires donc de vente en Chine, vente de cognac en Chine, et c'est 32% de son résultat d'exploitation. Simplement, on commence à connaître la nouvelle et le titre a quand même beaucoup baissé. Donc, pour celui qui investit sur long terme, il pourrait quand même commencer à regarder le dossier et à en acheter. Et pour celui qui en a en portefeuille, c'est pas maintenant que je le vendrai.
Ben voilà, c'est dit et c'est concis. Une idée de pépite quand même pour la suite, parce que même si le CAC ce soir perd 2%, sa pire séance depuis juillet. C'est Étienne qui nous le dit là, qui nous signale depuis la Tour Euronext, pire séance du CAC depuis juillet. Malgré tout, il y a toujours de l'espoir pour l'avenir. Et vous êtes un spécialiste des mid-cap de cet univers-là, Renaud. Une idée de pépite pour nos auditeurs et téléspectateurs?
Oui, il y avait une bonne tendance, hein, sur les valeurs moyennes qui repartaient. Donc on se méfiera d'une cycle. Là, on parle d'Imerys, hein, qui est une société minière, hein, spécialiste des minéraux.
Pour qu'on creuse encore un peu, là.
Ça creuse encore un peu. Mais cela dit, ils avaient quand même fini de creuser. Nous, ce qu'on jouait, c'était un point d'inflexion sur les volumes, hein. Après de longues années de décroissance, il y a une inflexion qui est enfin positive, et il y a de l'effet de levier, hein. C'est quand même des métiers à coût fixe. Face à ça, il y a plein également des litiges qui doivent être gérés, et surtout la société a enfin redéfini un peu son périmètre stratégique et son positionnement. Donc ça, c'est des bons éléments. Une valorisation qui est extrêmement basse, hein, par rapport, elle décote très fortement par rapport à ses historiques, plus une petite option, on va dire, sur l'évolution du capital, hein, premier actionnaire GBL pourrait être amené à reconsidérer, à évoluer son périmètre suite à la résolution des litiges. Donc, certes, si on fait attention au positionnement cyclique, c'est quand même intéressant d'aujourd'hui qu'elle ne perd que 1%, alors qu'on a des cycliques qui sont emballés beaucoup plus fortement. Donc, ça dénote quand même une résistance et un intérêt sur la société.
Pourquoi pas Imerys? Donc, merci beaucoup à tous les de nous avoir accompagnés, Renaud Ramed, promet par AM, Eric Blaine, Swiss Life, banque privée.
Today's episode is sponsored by NerdWallet's Smart Money Podcast. Ready to expand your financial game? NerdWallet can coach you on smart strategies like choosing investments, finding your next credit card, and setting a budget that works for you. Score major points towards your summer vacation by learning expert tips for choosing a high-yield savings account and how to build wealth by investing in index funds. Slide into summer with smarter decisions in 2024. Follow NerdWallet's Smart Money Podcast on your favorite podcast app. Future you will thank you.